Alors, ce matin, j'avais envie de me poser une petite question qui est la suivante. C'est d'où vient Jésus ? D'où vient Jésus ? Est-ce que vous savez d'où est-ce qu'il vient ? Vous avez envie de répondre peut-être du ciel ? Ah, c'est vrai, il vient du ciel. Et puis Thierry, la semaine passée, nous a bien rappelé, il a bien souligné l'importance pour nous, en tant qu'humains, eh bien, de l'incarnation de Jésus. Oui, il était auprès du Père, mais il s'est fait humain comme nous. Et ça, c'était important. Et Thierry l'a bien rappelé dans son message de dimanche passé. Mais est-ce que vous savez d'où vous venez ? Est-ce que vous savez d'où vous venez ? Qui ici connaît le nom de son papa ? Qui ici connaît le nom de son grand-papa ? Qui ici connaît le nom de son arrière-grand-papa ? Qui ici connaît le nom de son arrière-arrière-grand-papa ? Waouh ! Ok ! Et on va voir si on peut aller plus haut alors. Qui ici connaît le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-papa ? Ah, il y en a trop, c'est trop difficile. Bon, ben, ouais ? Ah, et son nom ? Peut-être derrière la photo ? Super, bon. Eh bien, c'est vrai qu'une des manières pour nous d'apprendre d'où vient Jésus, c'est de regarder sa généalogie. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est ce que vous voyez là. J'aimerais qu'on va lire une de ces généalogies. On en a deux. On en a une dans l'évangile de Luc et on en a une qui ouvre le Nouveau Testament, qui est dans l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais prendre celle-ci, celle de Matthieu. Et vous allez voir, ce sera les deux aspects que j'aimerais traiter ce matin, qu'on a l'impression d'avoir une lignée bien droite chez Matthieu et en même temps, le rédacteur de l'Évangile a fait quelques détours, lorsqu'il a écrit cette généalogie, des détours un peu bizarres. J'essaie de comprendre juste comment ça va. Alors ça, c'est dans l'autre sens. Magnifique. Je vais lire, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire des généalogies. Moi, j'aime bien les prénoms, alors c'est l'occasion. Et vous verrez que ça donne plein d'idées pour appeler, je dis ça aux futurs parents, ça peut vous donner plein d'idées pour les noms de vos enfants. C'est un peu petit, bon, ça ira. Donc Matthieu 1, si vous voulez sortir votre évangile, hein, premier évangile du Nouveau Testament, premier verset. C'est simple, je me suis dit, pour être dans l'avant, c'est pas mal de commencer par le début du Nouveau Testament. Ça tombait bien. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon avec Rahab engendra Boaz. Et Boaz avec Ruth engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Excuse-moi, on arrive à couper les grésillements ou pas ? C'est l'antenne ? Excusez-moi, c'est pour vous ? Ok. Ah oui. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Et après l'exil à Babylone, Yéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihoud. Abihoud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Voilà ce premier marathon de lecture des noms propres de la lignée de Jésus qui part d'Abraham pour arriver justement à Joseph et Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Alors, la première information... Ah bah zut, ça n'a pas mis mes petites choses progressivement, c'est pas grave. La première information que Matthieu y donne dans la généalogie, je reviens sur celui-ci, comme ça vous pouvez bien le voir, eh bien d'abord, c'est qu'il donne un nom, il s'appelle Jésus, celui dont il parle. Et évidemment, mais ce n'est pas seulement Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est donc la généalogie du Messie. Hein, Christ signifie le Messie en grec. C'est la généalogie du Messie qui est dressée en ce début d'évangile. Et juste ensuite, il est dit que Jésus est fils de David. Jésus est fils de David. Il est le descendant. L'auteur insiste donc sur la lignée royale. L'auteur insiste sur la lignée royale à laquelle appartient Jésus. Jésus, voilà ce que dit Matthieu, est bien le descendant du grand roi David. Par conséquent, faut bien se rappeler qu'on est là au tout début de son livre à Matthieu. Le Jésus dont il va être question dans la suite de l'histoire, c'est bien le Christ que les Juifs attendaient. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais quand Jésus, installé sur un ânon, monte vers le temple de Jérusalem, c'est bien en roi qu'il fait son entrée. C'est bien en roi qu'il fait son entrée. Et d'ailleurs, que crient les gens ? Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils reconnaissent que Jésus est le fils de David et qu'il est le Messie. Ça, c'est dans Matthieu 21. Mais l'auteur de l'Évangile ne fait pas simplement remonter la généalogie de Jésus à Matthieu. Il va un peu plus loin. Il remonte à Abraham. Luc, lui, de son côté, il va aller encore plus haut. Il va remonter d'Abraham à Adam et à Adam à Dieu. Parce que son but, c'est de dire que Jésus est fils d'Adam et il est fils de Dieu. Matthieu, il ne fait pas ça, il s'arrête à Abraham. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, en rappelant qu'Abraham est celui duquel toute la lignée jusqu'à Jésus est sortie, Matthieu fait de Jésus l'héritier de la promesse. L'héritier de la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Et je vous lis Genèse 12, verset 2-3. L'Éternel s'est approché d'Abraham, lui a dit de quitter son pays, d'aller dans la terre qu'il lui indiqua, et voilà ce qu'il a fait. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, le fait que Jésus soit l'héritier des promesses d'Abraham est une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle, mais je ne vais pas tout de suite vous dire. Je vais vous laisser un peu sur votre faim, je vais vous laisser patienter un moment, Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi le fait que Jésus est l'héritier de la promesse d'Abraham, c'est fondamental. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 17, à la fin du passage, on voit que Matthieu, il a construit sa généalogie picobello. De manière soignée, consciencieuse, il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David au moment de l'exil à Babylone et 14 générations du moment de l'exil à Joseph et à Jésus. Donc au premier abord, on a l'impression que la généalogie, elle est justement en ligne droite, hein, une lignée bien droite, comme si Matthieu dressait une sorte de tapis rouge à Jésus. Et pourtant, quand on regarde un petit peu plus près, il y a des drôles de détours. Et à mon sens, ces détours, ils sont autant importants que la lignée bien droite. Ces détours, on les trouve dans les noms des rares femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie. Et ces noms, ils sonnent un peu bizarrement, ils résonnent un peu bizarrement dans la généalogie du roi des rois. Il est dit au verset 3 que Judas, avec Tamar, engendra Phares et Zara. Verset 5, il est dit que Salmon, avec Rahab, engendra. Que Boaz, avec Ruth, engendra. Et au verset 6, que le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Et puis, tout à la fin, on a le nom d'une cinquième femme qui ne fait pas partie de l'histoire de l'Ancien Testament. Eh bien, c'est évidemment Marie. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ces femmes de l'Ancien Testament pour qu'on comprenne ce son de cloche un peu bizarre dans la généalogie. La première, c'est Tamar. Tamar, vous avez son histoire dans Genèse 38. Il y a Abraham, ensuite il y a Isaac, Jacob, et Jacob a de nombreux fils, et un de ses fils, c'est Judas. Et Judas, va avoir trois fils. Et le premier de ses fils, dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Er ou Ez, je ne sais plus exactement, il va lui donner comme femme Tamar. Malheureusement, ce fils aîné meurt. Alors Judas lui dit à son deuxième fils, épouse la femme de ton mari pour que le patrimoine reste au sein de la famille et qu'elle ne soit pas toute seule. C'est la loi du Lévirat. Et le deuxième fils de Judas dit d'accord, mais il le fait à contre-cœur. Et à chaque fois qu'ils couchent ensemble, la Bible précise qu'au moment de l'éjaculation, si vous voulez, le deuxième fils fait exprès de laisser, c'est noté, il laissa la semence se répartir par terre pour que lui, sa lignée soit pas, ils ne doivent pas la partager avec Tamar. Et évidemment, ça va beaucoup déplaire à l'Éternel. Et le second fils va mourir. Le troisième fils de Judas est trop jeune pour recueillir Tamar, pour remarier Tamar. Alors Judas, il est un peu embêté avec cette belle fille veuve qui lui reste un peu sur les bras. Et il lui dit, écoute, retourne chez ton père. Et quand mon troisième fils sera suffisamment âgé pour t'épouser, eh bien, tu pourras venir. Tamar retourne chez son père, mais Judas oublie sa parole. Et lorsque son fils est en âge de prendre Tamar comme femme, il ne la lui donne pas. Et un jour, Tamar apprend que Judas va se déplacer dans une ville. Et c'est là le point qui me semble important. Tamar va faire quelque chose de très particulier. Elle va se déguiser. Ça tombe bien, c'est l'escalade. Sauf que je ne pense pas que beaucoup de vos enfants sont déguisés comme Tamar, parce que Tamar, elle va se déguiser en prostituée. Elle va se mettre devant la ville et elle va se déguiser en prostituée. Et là, Judas va faire quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il va la voir et il va se dire « Ah tiens, je pourrais coucher avec elle. » Et donc, Judas couche avec cette prostituée, mais il ignore qu'en fait, c'est sa belle-fille. Et voilà que Tamar tombe enceinte de Judas, son beau-père. effet très particulier. Alors, la Bible critique ce qu'a fait Judas, mais la Bible ne critique pas ce qu'a fait Tamar. Pourquoi ? Parce que Tamar, et ce n'est pas anodin qu'on la retrouve dans la liste, certes, elle s'est déguisée en prostituée, mais elle avait un but, c'est qu'elle voulait rester fidèle et attachée à la famille qu'elle avait épousée. Et elle a tout fait pour rester attachée. Et Judas est bien obligé, lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il est bien obligé de rappeler Tamar. Deuxième femme, Rahab. Rahab, c'est dans Josué 2. Josué 2. Les Hébreux sont aux portes du pays de Canaan et ils vont devoir affronter la première ville qui est Jéricho. Alors, ils envoient des espions et ces espions font la connaissance de Rahab qui était, elle aussi, la Bible dit, une prostituée. Pas mal pour l'ancêtre de Jésus. N'est-ce pas ? Et Rahab, c'est ça qui est fascinant, c'est une femme étrangère aux Hébreux, elle est cananéenne, elle est de Jéricho, mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Alors elle va protéger les espions, et surtout elle va dire « Je reconnais l'autorité de l'Éternel Yahvé. Je sais que Dieu vous a donné le pays, s'il vous plaît, quand vous venez, épargnez-nous. » Et elle va être épargnée, et on apprend ici que c'est un certain Salmon, peut-être que c'était un des espions, on ne sait pas, qui va l'épouser. Donc là, les deux premières femmes qui sont mentionnées, on a quand même deux femmes, une prostituée, l'autre qui s'est déguisée en prostituée. Hein, on est bien là, on est bien. Et puis, troisième femme, c'est Ruth. Ruth, dans le livre de Ruth, qu'est-ce qui s'est passé avec Ruth ? Ruth, c'est une Moabite, c'est une étrangère aussi. Et Moab, le pays de Moab, les Moabites, dans l'histoire d'Israël, c'est l'une des grandes tribus ennemies du peuple israélite, du peuple hébreu. Et Ruth, elle va être rachetée par Boaz, hein, pour justement, là aussi, le patrimoine du mari de Boaz, du mari de Ruth, pardon, qui était décédé, le fils de Naomi, va rester sur les terres d'Israël. Et chez Ruth, au-delà du fait qu'elle était étrangère et qu'elle a été rachetée, ce qui est souligné aussi tout au long du livre, c'est sa fidélité à la famille qu'elle a épousée, qui se manifeste en particulier à la fidélité à sa belle-mère Naomi, n'est-ce pas ? Dernière femme, et on va se dire, mais purée, il a craqué, Matthieu, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Bethsabée, la femme d'Uri. C'est raconté dans Uri le Hittite. C'est raconté dans 2 Samuel 11. David est sur sa terrasse et il voit une femme qui se baigne. Cette femme est mariée, c'est Bethsabée. Elle est en train de réaliser son rituel de purification parce qu'elle a ses règles. Et il la désire, il la force à venir chez lui et il couche avec. Donc voilà, dans la généalogie de Jésus, une femme qui a été abusée sexuellement par David. On fait quoi avec ces quatre femmes dans l'histoire de Jésus ? Pourquoi est-ce que Matthieu nous donne tout ça ? C'est quand même étrange. Sur les 3 fois 14 générations qui vont d'Abraham à Jésus, Matthieu, d'abord, il choisit de mentionner seulement 4 noms de femmes, alors qu'il le fait pour aucun autre. Et dans les 4 noms de femmes, il donne ceci. On pourrait se dire qu'il aurait bien pu les passer sous silence. On pourrait se dire a priori que ce n'est pas forcément faire honneur au Christ, au Messie, dont il va raconter la venue, que de souligner en gras, hein, parce que c'est ça, en mettant ces 4 noms de femmes de l'Ancien Testament dans sa généalogie, Matthieu, il souligne en gras, qu'est-ce qu'il souligne en gras ? Que Jésus, c'est le lointain fruit de 2 relations adultères, qu'il est le descendant de 2 femmes qui se sont prostituées, qu'il a du sang de Cananéenne et de Moabite dans ses veines. Eh bien, ce n'est pas vraiment la lignée royale pure qu'on pourrait attendre pour un roi des Juifs. Alors, comment est-ce qu'on comprend ici des détours par ces femmes de l'Ancien Testament? En fait, moi, j'ai longtemps pensé que Matthieu, dans son évangile, il s'adressait à des Juifs. Et lorsque je l'avais lu, cette première généalogie, je m'étais dit, ah ben voilà, il part d'Abraham, il passe par David, il arrive à Jésus, il veut montrer que Jésus, c'est bien le Messie. Et donc, il s'adresse aux Juifs en disant, regardez, Jésus, c'est bien celui que vous attendez. Puis j'ai relu récemment l'évangile de Matthieu, je me suis dit, je ne crois pas que ça colle. Parce que s'il avait voulu faire ça, il n'aurait pas pris le temps de mettre quatre détours de noms de femmes étrangères, en l'occurrence. Alors, pour comprendre la présence de Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bethsabée dans cette généalogie, voilà maintenant que je peux vous annoncer la première bonne nouvelle du Vous vous souvenez d'Abraham? L'Éternel lui avait fait la promesse suivante. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Toutes les familles. Ça ne veut pas dire seulement la famille d'Israël. Ça veut justement dire que les nations étrangères aux 12 tribus d'Israël, eh bien, font partie du fruit de la promesse. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle s'étend à toutes les familles de la terre. D'accord ? Et l'arrivée de Jésus sur terre est justement le moment où la portée de cette promesse, elle est rendue à la fois visible et possible. D'accord ? L'arrivée de Jésus, c'est ce qui va permettre l'ouverture de la promesse que Dieu a faite à Abraham à toutes les familles. Et le comble, c'est que si on regarde de près, Jésus lui-même est en quelque sorte étranger à sa propre lignée. Regardez le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Dans toute la généalogie, la formule utilisée, c'est X, c'est-à-dire un père, engendra Y, c'est-à-dire un fils. Comme ici, hein, Jacob engendra Joseph. Mais pour Marie et Joseph, c'est différent. Matthieu n'écrit pas « Joseph engendra Jésus ». Pourquoi ? Parce que Joseph n'a pas engendré Jésus, tout simplement. La mention de la cinquième femme de cette généalogie, elle est donc tout à fait capitale. Comme la formulation, elle change par rapport à tout ce qui précède, l'engendrement de Jésus, il est particulier. Marie, de laquelle est né Jésus. Marie, de laquelle est né Jésus. En fait, comme c'était le cas pour les quatre femmes de l'Ancien Testament, la mention de Marie, c'est aussi le signe d'une étrangeté. Jésus lui-même, moi j'ai halluciné quand j'ai vu ça, il vient de l'extérieur de la lignée, il ne fait pas partie de la lignée, il n'est pas engendré par la lignée. Mais alors, comment ça se fait que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham? Comment ça se fait? Eh bien là, et j'en tremble à l'idée de vous annoncer ça les amis, c'est la deuxième bonne nouvelle. Il y a deux semaines, Thierry, il a rappelé l'importance de l'accueil. Et il a invité la communauté à ce qu'on puisse vivre cette période de l'Avent dans une perspective d'accueil. Nous pouvoir nous accueillir les uns les autres, faire l'expérience d'accueillir quelqu'un qui ne nous est pas complètement familier, qu'on ne connaît pas forcément, etc. Et puis, il a rappelé aussi, il y a deux semaines, l'importance de l'accueil que Marie a fait aux paroles de l'ange qui lui annonçait qu'elle allait porter le fils. Et bien là, j'ai envie aujourd'hui de mettre à la première place quelqu'un d'autre que Marie. J'ai envie de souligner l'importance du rôle de Joseph. De la même manière que Marie a accueilli la parole de l'ange, eh bien Joseph a accueilli Marie et son ange. Joseph a accueilli Jésus. Et cet accueil, il se manifeste dans le texte de l'évangile par la formule suivante, même verset, Joseph, l'époux de Marie. Joseph a épousé Marie et en épousant Marie, Joseph a adopté Jésus. Et c'est par l'accueil que Joseph fait à Marie que Jésus peut s'inscrire dans la lignée de David. Pourquoi est-ce que l'attitude de Joseph, elle est cruciale pour nous et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Parce que d'une certaine manière, l'adoption de Jésus par Joseph dit quelque chose de notre propre adoption par Dieu le Père. Jésus a pu faire partie de la lignée de David et d'Abraham à cause de la décision de Joseph qu'il a accueilli et qui a accueilli Marie. De la même manière, nous sommes les héritiers et nous sommes des fils de Dieu parce que Dieu a accepté de nous accueillir et de nous adopter. Et nous sommes aussi les héritiers. Et il y a quelqu'un qui a très bien compris ça. Il y a quelqu'un qui a très bien senti ça et qui a su en tirer les conséquences. Ce quelqu'un, en fait, c'est Paul. Lorsqu'il écrit dans la lettre aux Galates, un passage que vous connaissez, hein, sans doute, car vous tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà qu'on retrouve Abraham et la promesse de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et il n'y a plus ni juif ni grec. Waouh. Alors, encore une fois, mes amis, je devrais même dire mes frères et mes sœurs, voici la bonne nouvelle que j'ai envie de partager. Que tu sois quelqu'un de prostitué, que tu sois quelqu'un dont on a abusé sexuellement ou abusé d'une autre manière, que tu sois un étranger ou une étrangère, que tu sois quelqu'un qui ne connaît ni le nom de ton père ni le nom de ta mère, eh bien, sache aujourd'hui, tu as une place dans la lignée de la croix et que cette lignée, elle n'est pas réservée aux gens de bien. Cette lignée n'est pas réservée aux gens de bien. En effet, de la même manière que Jésus a eu accès à l'héritage d'Abraham par l'adoption de Joseph, eh bien, toi aussi, tu es l'héritier et l'héritier grand roi parce que Dieu le Père t'a adopté. Parce que Dieu le t'a. Et quand je méditais ce passage, j'ai envie de chanter avec vous les paroles de ce chant qui me sont revenues, de ce cantique. J'ai pris le temps de l'afficher. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand as-tu pensé à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi? Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Merci Père. Merci Père pour ces belles nouvelles que tu nous donnes. Merci parce que tu viens poser maintenant le sceau de ton adoption dans chacune de nous. Saint-Esprit, viens révéler à tes amis ici présents, viens danser dans leur cœur, viens tourbillonner autour d'eux. Ma prière est vraiment que celles et ceux parmi nous qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de formes de rejet, que ce soit à cause de leur nationalité, que ce soit à cause de leur passé lourd, eh bien, que ces personnes, ce matin, combien Dieu est et combien les tire dans sa ligne. Merci pour ton fils. Merci pour Jésus, dont l'arrivée et la naissance et sa venue sur terre a été l'occasion d'élargir la promesse et l'alliance que tu avais faite à Abraham. Et merci parce que grâce à Jésus, je peux me tenir debout et dire « Je suis enfant de Dieu. » Amen.